Nous avons commencé à explorer ces paramitas, ce qu'on appelle les paramitas, des qualités de pureté dans l'esprit. Nous avons déjà parlé de la patience et de la détermination. Et ce soir, j'aimerais continuer avec la sagesse. Je me disais, mon Dieu, il y a tellement de différentes manières d'aborder ce mot-là. La pensée peut créer à l'infini. C'est une merveille. Mais ce qui apparaissait clairement, c'est le lien direct entre la sagesse et la pleine conscience. La sagesse, ça n'est pas un état d'esprit, ça n'est pas quelque chose de fixe que je peux acquérir. C'est une attitude où je me souviens d'être là. Le propre d'une absence de sagesse, c'est que j'oublie d'être là, que je suis prise par l'expérience, par ce qu'on appelle l'identification ou l'appropriation. Et finalement, lorsque je suis prise par l'expérience, même si elle est bonne, ça n'est pas vraiment la sagesse. C'est une bonne expérience. La sagesse, c'est ce qui nous permet de constater de plus en plus clairement, parce que nous exerçons la concentration et la pleine conscience dans les moments où c'est neutre, que les choses changent et que le paysage est quelquefois beau, il résulte du lâcher prise, il y a une ouverture, quelque chose de bienfaisant. Mais quelquefois, c'est dur. Ça demande un gros effort d'être là. Les choses sont couvertes. C'est Jack Canfield qui a écrit un livre qui s'appelle « Après l'extase, la lessive ». Il y a quelque chose qui nous fait du bien dans la résonance à cette beauté secrète de la nature humaine. Mais après, il faut faire le travail. Donc nous pouvons, après coup, nous pouvons... La sagesse, c'est peut-être, c'est cet aspect-là que je pourrais aborder maintenant, c'est cette conscience des moments où je suis pleinement là, où il y a pleine conscience, où il y a cette capacité de connaissance directe dans l'instant, ou bien où il n'y a pas cette capacité-là, une absence de présence. Et l'absence de présence, elle est, ou l'absence de sagesse plutôt, elle est création de karma. Lorsque nous nous laissons prendre par ce qu'on appelle akusala, non bénéfique, ou anarya, non noble, c'est que à travers l'avidité, la peur, le stress, il y a une parole ou un acte, ou à travers l'égoïsme ou la non-détermination ou l'impatience. Il y a un manque d'éthique. Et nous pouvons reconnaître après coup, ok, ça c'était pas ok, ça n'était pas très noble, cette chose-là, dans l'instant. Et du moment que nous le reconnaissons, même si c'est après, il y a une forme de purification. Nous nous lions à nouveau à ce qui est sage. Et ça demande de l'humilité parce que ce lien à la sagesse fait que nous amenons la lumière de la présence sur notre imperfection humaine. Donc, entre cette présence et cette absence de sagesse, il y a une forme de... C'est une fois l'un, une fois l'autre. Et c'est important d'apprendre à reconnaître ce parami-là, cette qualité-là. Dans l'exercice de la méditation, nous n'avons pas besoin d'être autre chose que ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'être sages. Mais nous pouvons, ici et maintenant, voir que je ne le suis pas. Et c'est ça qui développe la sagesse. Il n'y a pas d'autre manière. Alors, bien sûr que la présence de la sagesse est liée plutôt à ce qu'on appelle les facteurs de l'éveil dans l'exercice de la méditation, et nous pouvons voir quand il y a de l'intérêt ou la joie de voir, pas la joie d'avoir quelque chose, mais la joie de voir. Ok, ben maintenant, je traverse vraiment une forêt profonde, hein. C'est vraiment très sombre. Mais ça n'est pas ce que je mets en priorité. Voir quand il y a une qualité d'investigation, quand j'emploie la pensée pour développer le discernement, et non pas la répétition obsessionnelle de mes protections et de mon avidité. Voir quand il y a le calme. Juste maintenant, c'est tranquille. Et goûter vraiment quand il y a le calme. Voir quand je fais l'effort. C'est énorme les efforts que nous avons à faire pour apprendre au corps et à l'esprit à être, et non pas toujours à être ceci ou cela, à se poser, à se reposer de la soif qui fait que je veux et que je ne veux pas. Il y a cette qualité de concentration. Et de goûter et de valoriser l'effort de revenir ici et maintenant, c'est très important, même si vous ne faites que partir et revenir. Je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Comme je marche, quand je marche, ça fait gauche, droite, gauche, droite. Je ne peux pas marcher seulement à gauche. Eh bien, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Si je le fais avec bienveillance, tranquillité et joie, c'est absolument agréable. Ce n'est pas un problème. Mais évidemment que si je crois qu'il faudrait que je sois autre chose que ce que je suis, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et c'est inutile, au fond. Et puis l'équanimité. Je me souviens quand j'avais fait ma première retraite avec Goenka, qui est un maître birman. parlais toujours de Sati, Samadhi, Panya. La pleine conscience, la concentration et la sagesse. Ou l'équanimité plutôt. Je parlais de l'équanimité plutôt que de la sagesse. L'équanimité. Et l'équanimité, c'est vraiment cette sagesse qui fait que j'accueille. Je suis toute accueillante et toute réceptive. Et je sais que ce que je suis vraiment, c'est la réceptivité elle-même. C'est tellement beau parce que plus je peux recevoir la totalité de l'ombre et de la lumière en moi, plus je peux le recevoir chez l'autre. Donc, c'est vrai que la méditation, la sagesse n'est pas facile, que quelquefois nous avons honte et c'est une bonne honte. Moi, ce que je remarque, c'est que les actes et les paroles qui ne sont pas dans la cible, si avant, bon voilà, c'était pas tout à fait, peu importe, c'est de plus en plus douloureux. Et c'est bon que ce soit douloureux. Parce que c'est ce qui nous pousse vers l'approfondissement du chemin. Et nous pouvons faire cet exercice le soir dans notre lit, de voir, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été bon? Ok, il y a ça, 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 ça. Qu'est-ce qui n'était pas bon? Ok, il y a ça, 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 ça. C'est fait après coup, mais je suis là, il y a cette intention de travailler la présence de la sagesse. Et bien sûr, nous pouvons toujours parler de ces trois caractéristiques dont le Bouddha parle, dukkha, anicca, anatta. Première vérité, il y a la souffrance. La cause de la souffrance, c'est l'attachement, ou le désir, ou la soif. Il y a l'impermanence. Les choses sont impermanentes. Ça, c'est de la sagesse. Et je ne suis pas l'expérience, même si elle a l'air très vraie quelquefois. Je ne suis pas l'expérience. L'expérience existe, elle est là, mais ça n'est que l'expérience. Et la nature humaine a cette compétence immense de contemplation qui fait que je me libère de l'expérience, je mets de l'espace. Et la vie est tellement plus simple, tellement plus pleine. Nous pouvons goûter à rien, ou à tout, au silence, à l'espace, à l'autre, à la vie. Mais c'est vrai que ça a l'air tellement vrai, l'expérience, que la pensée se met au service du monde conditionné, qu'elle oublie que je ne suis pas que ça, et que ce soit moi, toi, nous, vous, nous nous sentons coincés, tendus, nuls, malades, inquiets, stressés, obstinés, paresseux, ou le contraire. À l'aise, tranquille, ouvert, patient, plein d'élan, plein de sagesse. Mais tant que c'est moi, je suis ça, faites pas trop confiance. Il y a ça, oui, il y a ça dans l'instant. Il y a quelquefois l'aise et quelquefois le malaise. Ça a l'air vrai, c'est vrai que ça a l'air vrai. Du moment que je le vois et que je commence à comprendre, ça n'a que l'air vrai. alors je plonge de plus en plus profondément dans ce qui est sagesse en moi. C'est Ajahn Suchito qui dit « Être dans le non-discernement et le savoir, c'est l'éveil. » La présence de la pleine conscience. Et lorsqu'il y a une unification entre le corps, le cœur, le mental et la conscience, quand je suis là, mais que c'est simple, que c'est juste ça, alors qu'est-ce qui reste ? C'est là ce mystère du... ce que Maître Eckhart appelle le néant. Dieu est néant. Parce que lorsqu'il y a une absence d'identification, que ça n'est pas ni moi, ni toi, ni le mien, ni le tien, ni à moi, ni à toi, ou à nous, à vous. Le goût de la vie se transforme, le regard devient autre. Je vous lis une parole de Maître Eckhart. Dans l'Acte des Apôtres, il a dit que Paul se releva de terre et les yeux ouverts, il vit le néant. Et Maître Eckhart commente. Le Dieu néant, c'est le Dieu inconditionnel et transcendant, le néant du manifesté, autrement dit la déité au-dessus de Dieu. Si l'être est quelque chose, alors Dieu est néant, au sens où il est au-delà de ce qui peut se représenter en termes de manifestation. En tant que déité, Dieu est le tout autre. On comprend dès lors que la déité ne puisse faire l'objet que d'une connaissance négative. Au-delà de ce qui est manifesté, au-delà du monde conditionné. Et vraiment, lorsque vous êtes là, avec l'expérience telle qu'elle est, vous avez un pied dans les deux mondes. C'est comme ça. J'ai un pied dans les deux mondes, même si je ne le sais pas encore complètement. Donc, de l'intérêt à l'expérience dans l'instant, oui, un réel intérêt, un profond intérêt. Quand j'entends sonner la cloche, je la laisse vraiment être perçue profondément, ou la respiration, ou même les pensées, sans les accrocher, mais donner de l'importance, non, ça n'est pas utile de se prendre terriblement au sérieux. C'est important de travailler l'éthique, mais nous n'avons pas besoin de le faire avec inquiétude et avec culpabilité et avec cette lourdeur du moi. Parce que lorsque j'ai de l'intérêt, la purification se passe. Je n'ai pas besoin d'entrer dans quelque chose de lourd. Il y a cette puissance de la pleine conscience que nous pouvons développer. Et lorsque je suis dans une totale confusion, que le corps est tendu, que le cœur est aux abois, qu'il n'y a même pas de conscience, à un moment donné, le Dharma nous rejoint. Lorsque je l'ai oublié, c'est lui qui me court après. Et tout à coup, ah, ouais, ok. Je suis là, je me souviens, quand le cœur est aux abois, il y a confusion. et je peux être là avec la confusion. Donc c'est un travail lent qui demande détermination et patience et qui porte des fruits, le Bouddha l'a dit. Ce chemin est possible, je ne vous demanderai pas de le faire si c'était impossible. Je sais qu'il est difficile, mais ce qui est difficile vaut mieux que ce qui est impossible. Faites-le, et les fruits, tout à coup, émergent comme une grâce. Lorsque je travaille la présence à l'instant, je développe la sagesse, que je le sache ou non. J'aimerais terminer avec une parole que je vous ai déjà lue, mais qui peut être relue, que j'avais écrite dans une retraite. L'attention à l'instant est un éclat de la vérité, une parcelle de Dieu. Elle est vide de toute saisie et pleine de l'expérience ici et maintenant. De même, le dharma, la vérité ou la sagesse, est ressenti comme infiniment vide et pourtant pleine de tout le créé et l'incréé, de l'immense et du minuscule, du bien, du mal, du sacré, du profane, du passé, du futur, du présent, de la vie et de la mort. Le dharma, c'est tout, c'est le monde conditionné, mais c'est aussi la source de l'être, ce qu'on appelle l'ultime, ou le non-moi, ce que Maître Eckhart appelle le néant. Dieu en tant que non-manifestation. Et ce que le Bouddha a appelé anatta, le non-moi.